Qu'est-ce que vous avez appris la semaine passée? Ce que vous avez fait, sur l'identité de Christ, c'est que je suis en sécurité avec Christ, pas vrai? Okay? On a tout avec Christ. Nous avons une vraie sécurité qui est éternelle. Et il peut nous donner cette vraie sécurité pour demain, mais surtout pour notre salut. Aujourd'hui même, on peut être sûr qu'on est sauvé. Connaissez-vous le verset 1 Jean 5, 13. Afin que vous sachiez que aujourd'hui vous avez au présent la vie éternelle. Vous qui croyez au Fils de Dieu, au nom du Fils. Jean 17 dit aussi, lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ce que tu m'avais donné. Je les ai préservés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Donc, maintenant, aujourd'hui, on peut être sûr qu'on est en sécurité avec Christ. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je suis à tout jamais libre de la condamnation. Romains 8, fameux verset, okay, qui est clair, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de culpabilité qui amène un châtiment éternel. Ça ne dit pas que Dieu ne nous corrige pas. Ça ne dit pas ça. Ça ne dit pas que Dieu ne va pas nous redresser quand on est courbé et qu'il ne va pas nous remettre sur la voie droite. C'est pas ça que ça dit. Parce qu'on n'a pas de condamnation. On n'est plus coupable du péché pour l'éternité. C'est une grande différence avec ça. Je suis assuré que toute chose concourt à mon bien. Est-ce qu'on pense toujours ça? Quand on souffre, quand ça va mal, quand les choses ne vont pas comme on a planifié? Moi, j'aime planifier à l'avance. Vraiment à l'avance. Je planifie à moyen et à long terme. Mais quand les choses ne vont pas comme que je veux, quand je manque le contrôle, est-ce que j'ai vraiment une assurance que tout arrive pour mon bien? Je ne peux pas dire toujours oui. Mais la parole de Dieu nous dit que toute chose concourt à ceux qui aiment Dieu. C'est un rappel. Et de là, j'ai un choix de croire à ce que moi je ressens ou croire à ce que Dieu dit dans la parole.
On m'a affecté à l'autre fois cette semaine, puis ça ne faisait pas mon affaire. Vraiment, c'est apparemment que je n'ai pas les voix de pas ce que j'occupe. Fait que finalement, ben là, j'ai été voir la direction parce que je travaille avec une agente. Puis finalement, ben, pour me rassurer, c'était quoi le. Puis finalement, ben, en allant voir la direction, tout ça, ben, j'ai su qu'ils veulent vraiment m'engager, que vraiment, ils veulent me donner. Puis c'est temporaire, puis qu'ils ont vraiment l'intention que c'est moi qui veux que je sois là. Mais à cause de certaines règles, ils doivent m'affecter à un autre poste. Fait, ça concourait mon bien, puis ça m'a permis de me rassurer vis-à-vis que l'entreprise en question veut me garder.
Donc, tout concourt, même quand on ne voit pas. Là, mon frère a eu la possibilité de voir ce qui va arriver. Mais des fois, on ne voit pas ce que demain va arriver. Mais on est appelé à avoir confiance en Christ. Cette semaine, oui? Oui? Quelle est parlée? Cette semaine, mon identité en Christ, c'est un dur mot. OK, pour moi qui bégaye à dire identité. On va voir deux choses. OK? Merci, ma sœur. Je suis libre de toute accusation. Et je ne peux être séparé de l'amour de Dieu. Deux thèmes importants de notre identité en Christ. Donc, ça suit qu'est-ce que vous avez vu la semaine passée. Qui peut me lire Romains 8, 31 à 34? S'il vous plaît, à voix haute et fort.
Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous.
C'est un grand passage. C'est un très grand passage. On va un peu le morceler. Mais question avant, quelle situation de vie ces versets évoquent-ils? Qu'est-ce que ça évoque dans notre vie, ces versets? Qu'est-ce que ça vous fait réfléchir à votre vie?
Je n'ai pas à m'inquiéter.
Je n'ai pas à m'inquiéter.
J'ai l'assurance.
Une assurance.
Nous étions
avant accusés. Aïe, aïe, aïe. Donc, on était accusés. Maintenant, on a une espérance, on a une sécurité. Mais des fois, on oublie qu'on était accusé. Hein. Des fois, c'est bon de se rappeler où ce qu'on était, où ce que Dieu est venu nous chercher. Ça nous rappelle qui on est aujourd'hui. Comme dit Paul dans Romains 1, avant, nous étions pécheurs, puis il nomme différents péchés. Maintenant, nous sommes en Christ. Ce qui est une grande différence. Il y a un avant et un après. Oui, mon frère.
Je suis plus sur la condamnation. Je suis assuré d'être dans la présence de Dieu, peu importe ce qui arrive. Je suis assuré de sa présence. Il va arriver, Dieu est avec nous. Dieu est pour nous.
Peu importe ce qui va arriver, Dieu est pour nous. Mais les passages de Romains 8, moi, qui ça fait penser, c'est un procès, une salle d'audience. Qui a un accusateur, qui a un avocat et qui a un juge. Qui nous accusera? Que dit le passage? Mais la situation est particulière. L'avocat de l'accusé possède un document déclarant qu'un autre est coupable et que cette autre personne va prendre la punition. L'accusateur a perdu. Ça fait penser à une image. C'est en anglais, ok? Mais je vais vous montrer pareil. Je n'ai pas traduit. Dieu, la justice de Dieu, qui condamne le péché. Et c'est une juste justice. C'est parce qu'il ne prendra pas le coupable pour innocent. C'est ce qu'il déclare à Moïse dans Exode 34, quand il proclame sa gloire. Donc il est juste. Mais là, il y a aussi la grâce de Dieu. Qui pardonne de génération en génération. C'est drôle, hein? Le gars, là, c'est comme il. Je pense qu'on va être à peu près pareil, avoir la même. Mais nous, on le sait, mais on va avoir la même réaction. Dieu qui va nous juger et Dieu qui va nous justifier, nous purifier, va déclarer qu'on est pur déjà. Que Christ est mort, que Christ a pris la punition, le salaire, la condamnation. C'est pas merveilleux, ça? C'est comme une image. Et Romains 3, 25 à 26 dit, c'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés, comme auparavant, au temps de sa patience. Il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. C'est une grâce. Maintenant, il n'y a pas d'image pour bien représenter, ok? C'est une image imparfaite, ok? Mais je pense que ça montre la personne de Dieu. Donc, quelle réponse peut-on donner à la première question posée au verset 33? J'espère que vous avez toujours votre doigt dans Romains 8, 31 à 34. Au verset 33, qui accusera les élus de Dieu? À quoi, comment on peut répondre à cela? Avez-vous une réponse, une idée? Exactement, hein? C'est certainement pas Dieu qui va les accuser. Qui accusera que Dieu a dit élu. Donc c'est important. Mais on a un accusateur qui nous accuse. Mais Paul pose la question et il répond. Si c'est Dieu qui les élu, si c'est Dieu qui les juge. Pour répondre à cette question, utilisons Apocalypse 12, verset 10, qui dit « Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » On a eu un accusateur. On a un accusateur. Mais qui nous accusera? Pas Dieu. Le juge, le juste juge, celui qui règne au ciel et sur la terre. Donc nous sommes vraiment libres de toute accusation. C'est une chose à vraiment à penser. Satan nous accuse jour et nuit. Il va essayer de trouver n'importe quel moyen pour nous aveugler, pour nous donner un mensonge. Il a dit un mensonge à depuis Ève, il ment. Donc, il se perd du mensonge. Et c'est ce qu'il fait dans notre vie. Il nous fait croire un faux fait. OK? Ce n'est pas un fait. Il nous accuse quand on ne peut pas être accusé.
Il nous fait croire que nous sommes accusés à cause que nous sommes encore pécheurs.
Oui.
Et ça, c'est vrai que nous sommes encore pécheurs. La seule chose, c'est que le juge, c'est ce que le passage dit, le juge, Dieu est à la fois juge et il est à la fois victime expiatoire. D'ailleurs, le mot expiatoire, et ça, il est à la fois le juge et il est à la fois celui qui a payé pour la condamnation.
Pour notre faute. Pour notre faute.
Donc la victime expiatoire. Donc il a expié notre condamnation.
Et c'est pour ça que personne ne peut nous accuser.
Et c'est pour ça qu'on ne peut pas perdre ce salut pour lequel Dieu a expié.
Exactement. Plus tard, on va voir pourquoi, une raison importante qu'on ne peut pas perdre cela. OK? Une raison bien particulière pourquoi on ne peut pas perdre. Mais c'est important de comprendre que Satan essaie de nous mentir, de nous faire mentir. Il essaie de nous faire croire à un mensonge. C'est important qu'on puisse comprendre cela. OK? On peut se sentir coupable. Okay? Je fais une petite sortie là. Des fois, on est triste à cause d'une situation qu'on n'aime pas, qu'on a fait. OK? Dans la Bible, Paul nous montre deux tristesses. La tristesse de Paul et la tristesse de Judas et celle de Pierre. Quelle est la différence entre les deux?
La repentance.
Il y a une tristesse selon 2 Corinthiens 8 qui amène à la repentance et une autre qui amène à la mort, à la perdition. Il y a une tristesse. Ça, c'est être coupable. Ça, c'est aller être condamné. Mais il y a une qui amène à la repentance. Ça ne dit pas qu'il n'y a pas de souffrance, là. C'est très important pour ça.
Il y a une différence entre la repentance et un sentiment qu'on appelle regret, qu'on appelle toutes sortes de choses, qui n'est pas la repentance. Et Judas a éprouvé un sentiment de regret. Il dit, j'aurais pas dû faire ça.
Il a même lancé son argent au pied du sacrificateur. Il y a eu un regret. Il a su que ce qu'il avait fait n'était pas bon. Mais ce n'est pas repenti. Différence entre Judas et Pierre. Donc je reviens sur nos pas. Okay? Qui peut lire pour nous 2 Corinthiens 4, verset 4? À voix forte. 2 Corinthiens 4, verset 4. Qu'est-ce que Paul dit aux Corinthiens pour leur rappeler?
Ils ne croient pas parce que Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Ce Dieu les empêche de voir la lumière diffusée par la bonne nouvelle de la gloire du Dieu, lequel est l'image humaine de Dieu.
Qu'est-ce que Satan veut? Il veut... Qu'on croit?
Il
il ne veut pas qu'on croie exactement. Il veut toujours qu'on croie toujours à un mensonge. Il veut garder, il veut qu'on reste dans notre situation de péché. Il ne veut pas qu'on change.
Il veut qu'on soit aveugle.
Ça veut dire qu'il veut qu'on soit inactif. OK? Il ne veut pas qu'on fasse le plan de Dieu. Comme il ne voulait pas que Adam et Ève fassent le plan de Dieu. C'est la même stratégie depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Un petit doute, est-ce que Dieu a vraiment dit cela? Une demi-mensonge et un mensonge. Il y a quand même une progression. OK? Il y a quand même une progression. Satan fait la même chose, ça fonctionne. Depuis pendant des siècles, ça a fonctionné. Il continue avec nous aussi. Donc, pensons pas que c'est quelque chose qui est très rusé. C'est une stratégie. Comment détourner l'attention. Les humains essaient de se justifier et de vivre leur convoitise, selon leur convoitise. Donc, c'est plus difficile pour celui qui veut être justifié de répondre parfaitement à l'appel de Dieu. Par Christ, nous sommes en sécurité. Par Christ, par sa mort, il a tout payé. Et ça, c'est important. Il n'a pas juste payé un peu. Il n'a pas juste payé pendant un temps. Mais il a tout payé. Paul rappelle aux Colossiens là, que toutes les autres choses qu'on veut mettre par-dessus, là, c'est un faux évangile. Parce que Christ a tout payé. Pas un peu payé, tout payé. Donc, on est vraiment libre de toute condamnation. C'est pas Jésus-Christ et d'autres choses. C'est Jésus-Christ, point. Lui seul. Sa résurrection, le fait qu'il est vivant, ok, est le signe que notre dette est vraiment tout payé éternellement. Il est vivant. S'il serait mort, là, on n'aurait pas d'espérance. Tantôt, à 10h15, on va l'adorer, on va le louer, parce qu'il est vivant. Et il va revenir nous chercher. Amen. Et c'est ça qui fait que notre espérance, que notre dette est totalement payée. C'est très important. Ça montre que son sacrifice est divinement accepté.
Misère.
Qu'est-ce que Christine dit? C'est que c'est difficile pour ceux à qui qu'on témoigne l'évangile, qu'on témoigne Christ. Ils ne sont pas sûrs, là. Oh, je vais être sûr, rendu au ciel.
Ouais.
C'est encore un mensonge. On peut être sûr aujourd'hui.
Oui.
Maintenant, on peut être sûr. Et c'est un défi qu'on a. Oui. C'est un défi. Parce que les hommes, comme les femmes, essaient de vivre selon leur propre convoitise de ce qu'ils voient maintenant. Ils n'ont pas d'espérance à demain. Ils n'ont pas d'espérance que Christ a totalement tout payé.
Ils n'y croient pas, finalement.
Un, deux.
Mais quand ils...
Avant.
C'est intéressant que tu nous amènes à ces versets-là. Apocalypse. Romains, non, 2 Corinthiens, il dit, bon, 4-4, il a aveuglé les pensées, comme il a aveuglé les pensées de Ève, en lui disant, en leur disant qu'il serait comme Dieu s'il acquérait la connaissance. Et alors, il aveugle les pensées de ceux qui ne veulent pas que ce soit Dieu qui les justifie, qui veulent se justifier.
Donc, c'est écrit 2-4-4.
De Corinthiens 4.
Corinthiens 4-4. Et ça, c'est le verset qu'on a lu tout à l'heure. Puis après ça, il y a Romains. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Il est le seul qui peut nous justifier parce qu'il est celui qui voit le péché en nous. C'est lui qui ne peut pas voir le péché. Et il a décidé de remédier à ça. Il est le seul qui pouvait le faire. Le diable, lui, il voulait nous dire qu'on était capable de faire
tout ça. De déclarer une indépendance à Dieu.
Oui.
Donc, c'est vraiment... Et encore aujourd'hui, on a le même combat. On veut être indépendant, on veut être notre propre roi.
Ça a toujours été, c'est la même affaire depuis le début.
Exactement.
Mais c'est
difficile de parler à quelqu'un qui ne croit pas. Parce que des fois, on se fait appeler des illuminés.
Oui.
En fait, c'est vrai qu'on est illuminés dans un sens.
Oui.
On est illuminés parce qu'on comprend que Satan, il ne veut pas qu'on comprenne. Eux, ils ne comprennent pas parce que Satan est, a une puissance sur eux. Ils ne peuvent pas comprendre. On essaie d'expliquer, mais je ne suis pas capable de l'expliquer. Pourtant, je le comprends, mais je ne peux pas expliquer à quelqu'un. C'est Satan qui te contrôle. Tu ne peux pas voir.
Il a aveuglé leur pensée.
Il a aveuglé leur pensée. Oui?
Comme il dit, le verset dit aveugler l'intelligence. C'est pour ça qu'on a besoin d'être renouvelé par notre sainte intelligence. Il faut être transformé par le renouvellement de l'intelligence que vous avez en main.
C'est totalement vrai, mes frères et sœurs. Et c'est aussi une grâce qu'on est sauvé. Et c'est pour ça que Dieu nous demande de publier. J'étudie des fois dans mes temps libres le grec, de partager. Le vrai thème serait de publier, de proclamer,
oui,
de dire la bonne nouvelle. On a ce devoir-là. On n'a pas le devoir du résultat. On a le devoir de proclamer à nos voisins, à nos familles, à nos... à tout le monde que ce que Dieu met sur notre chemin. Ce matin, dans mon temps de méditation, je lisais Proverbe 1, qui me rappelait que la connaissance, que l'intelligence, c'est connaître Dieu. C'est connaître Dieu, mais on est attiré à ne pas connaître Dieu, vers la folie.
Oui, mais connaître Dieu, c'est lire sa parole.
Oui, amen.
Alors, s'ils ne lisent pas les gens, les inconvertis, ils ne lisent pas.
C'est pour ça qu'il faut proclamer, publier, jour après jour. OK? Sinon, ils vont aller dans la perdition. Et ils sont accusés. Mais nous, nous ne sommes pas accusables. On n'est plus sous la condamnation. On n'est plus accusé. On est libre de toute accusation. Donc ça, il faut juste se rappeler. Et ça cause que comment on va vivre en étant libre de toute accusation, les autres vont poser des questions sur nous. On va avoir une paix qui n'est pas descriptible. Et en publiant la bonne nouvelle, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont poser des questions. Donc, une question que moi, qui m'a été posée quelquefois, pourquoi l'intercession de Christ est-elle efficace? Pourquoi que Christ, lui, ça fonctionne?
C'est son sang qui a coulé.
Parce que je ne sais pas si vous connaissez les différentes religions au monde. Okay, les grandes religions,
ouais.
Il n'y a aucune façon d'être sûr d'aller voir Dieu.
C'est ça.
Aucune autre.
Et c'est toujours par les
hommes. Oui.
C'est ce que j'allais dire après.
Oui.
Okay? Le moyen pour avoir plus de probabilité, c'est que tu fasses quelque chose, que tu emmagasines quelque chose, que tu as une banque.
Oui.
Okay? Une banque
de bonnes hommes.
Pour essayer d'acheter quelque chose. Pour échanger quelque chose, pour faire un troc, d'avoir quelqu'un au-dessus de moi.
Mais ce n'est pas à nous de faire le travail de Dieu dans un cœur. L'exemple du centenier sur le bord de la croix, là, c'est lui qui a donné les ordres pour flageller Jésus, battre Jésus, déshabiller Jésus, planter les clous, etc. Et quand Christ est mort et qu'il a crié, tout est accompli, qu'est-ce qu'il a dit?
Assurément, cet homme était fils de Dieu.
Donc, lui, il n'est pas fils de Dieu avec un petit D, Dieu. Il a reconnu la divinité de Christ et il est au pied de la croix. Et c'est lui qui l'a fait crucifier. Donc, pourtant, il n'a pas annoncé l'Évangile.
Non.
Mais lui, il a cru. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, nous, on parle, on proclame l'Évangile, comme vous l'avez dit, on témoigne à nos voisins. Et le Seigneur va parler. Et la parole de Dieu est claire, c'est toute écriture est utile pour enseigner, convaincre, corriger, etc. C'est pas nous autres qui faisons ça. C'est la parole de Dieu. Donc, nous, on est là pour proclamer la bonne nouvelle.
Exactement.
Le Seigneur, c'est son travail après la suite.
Oui.
Qui peut lire Hébreux 7? Mais je vais vous lire Hébreux 7, 25. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement, pas un peu, parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il y a deux mots importants ici. C'est quoi dans le verset? Qui change toute la profondeur de ce que l'auteur aux Hébreux écrit. Oui, ça c'est un. Et
parfaitement.
Parfaitement, c'est bon. Et l'autre, c'est... L'autre, c'est deux mots, à vrai dire. Qu'est-ce qu'il dit toujours? Toujours vivant. OK? Il n'est pas seulement vivant, parce que ça pourrait être juste autant de l'apôtre, de celui qui a écrit. Il est toujours vivant, encore aujourd'hui, en 2019. Il est vivant et puis il va revenir. Il y a plusieurs raisons qui font que Christ est notre intercesseur. Il est mort comme une victime expiatoire pour nos péchés. Il est ressuscité en battant la mort. Il est notre médiateur entre Dieu et les hommes. Il est l'ultime sacrificateur. Celui qui va sacrifier. Dans Ésaïe 53, on voit que Dieu prend plaisir. Ça, c'est dur à concevoir, là, d'envoyer son Fils lui-même mourir pour nous. Il a été tenté comme nous. On a vu ça il y a quelques semaines dans Luc 4. Comme nous. Comment ce passage illustre-t-il cette vérité que nous sommes libres de toute accusation? Comment ça lutte ça? Comment que vous vivez ça, d'être libre de toute accusation?
Je n'ai pas de culpabilité.
Pas de culpabilité. Quoi d'autre?
Léger.
Oh, oui. Mais ça, c'est des sentiments. Il n'y a plus de poids. Ça, c'est un sentiment. Comment une action, ça se révèle?
Par des œuvres.
Pourquoi qu'on fait des œuvres?
Elles viennent toutes seules parce qu'on est heureux.
Qui peut me lire Éphésiens 2, 10? Afin que nous les pratiquions. On ne fait pas des œuvres pour être sauvés. C'est parce qu'on est sauvés qu'on veut. Ça nous change tout notre statut. Tout notre vouloir.
On est heureux de les faire, les œuvres. C'est pas obligé. On n'est pas obligé.
Exactement. On veut sauver d'autres. On veut que Dieu nous utilise pour sa gloire. Zacharie 3 dit, « Me fit voir le souverain sacrificateur Josué debout devant l'ange de l'Éternel et Satan debout à sa droite pour l'accuser. » L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem. N'est-ce pas là un tisan arraché du feu? Waouh, hein? Satan était là pour accuser. L'Éternel est là pour le défendre. Malgré le péché d'Israël, Dieu reprend deux fois Satan afin de lui dire qu'il ne peut pas accuser ceux que lui-même a choisis. Est-ce que Dieu nous choisit? Est-ce qu'il nous a choisis? Est-ce qu'on peut nous-mêmes aller vers Dieu? Mike, c'est pas la plus grande œuvre, mais c'est une très grande œuvre qu'on peut faire. Vous savez, c'est quoi, selon moi, la plus grande œuvre? La première, à vrai dire, et c'est la plus grande aussi, d'accepter la grâce de Dieu pour nous, qui a pris notre place à la croix. C'est une œuvre qu'on ne peut pas faire par nous-mêmes. C'est un cadeau. Quand on comprend cela, qu'on est libre d'accusation à cause que Christ est mort pour mes péchés et qu'il est toujours vivant aujourd'hui, il n'y a rien qui est impossible. Et aimer nos ennemis passe par là. Parce qu'on sait que Christ est mort pour nous. Il a pris notre péché. Donc je ne mérite pas son amour. Et mon ennemi, je peux l'aimer, même s'il ne mérite pas. Je peux l'aimer parce que Dieu m'a aimé, moi qui étais son ennemi. Je peux aller aider n'importe qui, prendre le temps pour reprendre quelqu'un, pour mettre sa bonne voie, pour aider quelqu'un, pour parler de comment que Dieu m'a changé. Donc, tu as raison. Moi, je pense qu'il y a juste une œuvre qui est un peu plus grande. Oui, ma sœur. Bonne question. Elle dit, en étant libre de toute accusation, est-ce qu'il y a un péché qui n'est pas pardonnable? Je pense que la parole de Dieu est claire et certaine, est claire. En tant qu'enfant de Dieu, si on est libre de toute accusation, il n'y a rien qui peut nous condamner. Non, attends, il y a une précision dans la question. En tant qu'enfant de Dieu.
Voilà, c'est ça.
OK? Donc, il est déjà scellé.
Oui.
Jean 10 dit, ceux qui m'appartiennent, personne ne pourra me les arracher de ma main. Il n'y a rien. Paul dit, ben, tantôt on va voir ça, l'amour de... Ben, je ne veux pas aller trop loin là, mais tantôt on va voir qu'est-ce qui peut nous arracher de l'amour de Dieu.
Quand on ne croit pas en lui.
Comme enfant de Dieu, il n'y a rien. Rien. Nada.
Nada.
OK?
Nothing.
Faut juste comprendre, OK? Donc, il faut comprendre les Écritures à travers cela. OK? Mais je pense que tu avais un verset que tu avais en tête. Oui. Qui peut lire à voix haute 1 Jean 5.
Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, il prie et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. C'est ça?
17. Toute injustice est un péché et il y a. C'est le péché qui mène pas à la mort. Il y a un 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est engendré du malin, qui est engendré de Dieu le garde et le malin ne le touche pas. Nous ne savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Il n'y a pas de péché qui peut libérer, qui peut séparer de l'enfant de Dieu.
Quelque part, c'est écrit contre le Saint-Esprit.
Oui. Oui.
Tout péché sera pardonné, sauf le blasphème contre l'Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit, ça concerne ceux qui ne sont pas enfants
de Dieu. C'est pour ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, mais, voilà. Mais il y a une différence entre les deux.
Il faut rester dans le contexte du passage.
Ah oui.
En gros, le passage commence au verset 14. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute et il est prêt à nous pardonner. Donc, il faut rester dans le contexte. Là.
Mm-hmm.
Mais il dit qu'il y a un péché qui mène à la mort et un péché qui ne mène pas à la mort. Et le seul péché qui mène à la mort, ben c'est le péché tout court qui mène à la mort.
Et
maintenant, si une personne, l'Évangile lui est présenté, puis elle le flush,
ah ben voilà, ça mène à la mort.
Ce péché-là mène à la mort.
Voilà.
À vrai dire, et faut bien comprendre, si je devrais dire en d'autres mots, si quelqu'un, c'est un peu comme Jésus a dit, dans Matthieu 18, si quelqu'un se dit en frère,
oui.
Okay, et qu'il rejette Christ, par la suite, on n'est pas là pour savoir qui est sauvé. Okay? On n'est pas là pour dire qui est sauvé. Mais c'est sûr et certain, un enfant de Dieu ne perd pas son salut. En aucun moyen. En aucun moyen, il perd son salut. Sinon, la parole de Jésus dans Jean 10 ne fonctionnerait pas. Celui qui a le sceau de Dieu est complètement non accusable. Il n'est plus accusable de rien parce qu'il appartient à Dieu. Il est de Dieu. Tu comprends? J'ai pas compris ça.
En plus,
on a
une responsabilité.
On a la possibilité de vivre, mais ça n'enlève pas aucun le statut de non accusable devant Dieu. Maintenant, je ne sais pas qui est. Moi, je sais que je suis sauvé, moi, personnellement. Ok? Je ne sais pas si tout le monde ici est sauvé, même si que tout le monde le professe. Ce n'est pas mon travail de savoir qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. Mais je peux vous dire une chose. Si vous croyez en le Fils Jésus, qui est mort pour vos péchés, pour tes péchés, et qu'il est ressuscité, qu'il est toujours vivant aujourd'hui, tu es sauvé. Et ta vie est changée. Tu ne vis plus pour avant, parce que tu sais de quoi que Jésus t'a sauvé. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends, ma soeur? C'est ceux qui sont sauvés qui vont persévérer.
C'est ça. C'est ça qu'on va comprendre.
C'est aussi clair que ça?
Oui.
C'est une autre dispensation aussi qui parle.
C'est il faut toujours comprendre la parole de Dieu dans toute sa révélation. Pas juste dans une. OK. Un ici, deux ici. Après ça, je continue. OK?
Juste pour peut-être aider, là. Quand ça dit dans le verset 16, si quelqu'un voit son frère commettre un péché, est-ce que ça serait intéressant d'aller voir, est-ce que c'est un frère dans le Seigneur ou c'est un frère en tant qu'humain?
Bonne question, ça, je ne sais pas.
Parce qu'un humain, c'est aussi mon frère, mais ce n'est pas mon frère dans le Seigneur.
Oui, mais je ne peux pas te répondre à la question maintenant.
Mais c'est ça.
OK? Oui, mais je pourrais répondre comme Matthieu 18 dit, hein, si ton frère a péché, va et reprends-le. Mais s'il ne se reprend pas, mais Dieu à l'église et il te traite comme un païen. Maintenant, Jésus ne dit pas que c'est un païen. Ça se peut qu'il est un païen. Mais il dit juste de le traiter comme un païen. Parce qu'il agit comme un païen. OK? Dieu seul sait s'il est sauvé ou non. Ce n'est pas à nous de juger. Ce n'est pas nous. On n'a pas accès au cœur. Et ça, il faut faire attention à cela. Qu'est-ce qu'on voit? On n'a pas accès au cœur. Nous, on juge qu'est-ce qu'on voit, les actions. Elisabeth. Oh, toi aussi, hein? Qu'est-ce qui va arriver? Ce qu'Elisabeth dit, c'est que de persévérer jusqu'à la fin, ce n'est pas une condition, c'est une confirmation. C'est ce qui arrive à ceux qui ont mis leur confiance en Christ. C'est très bien. Wow. OK. Deux versets que nous devrions toujours avoir en tête. Et ça, si vous avez un crayon et un papier, je vous conseille de prendre votre crayon, un papier, et d'écrire ces deux versets-là. Dans Jean, l'apôtre Jean qui a écrit deux versets que j'aimerais que vous ayez en tête. Jean 20, 31. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc c'est clair le but de Jean quand il écrit son évangile. C'est pour que qu'on puisse croire chacun d'entre nous, individuellement, que Jésus donne la vie par lui. Et tantôt, on a récité 1 Jean 5, 13. Car je vous ai écrit, encore l'apôtre Jean, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Waouh, hein? C'est clair. On ne peut pas aller à l'encontre de cela. C'est deux passages qui parlent vraiment qu'on est libre de toute accusation, de toute condamnation, en tant que quand on croit que Jésus est le Fils de Dieu. Ça implique qu'on croit qu'on a été pécheur, qu'on ne peut rien faire par nous-mêmes, que Christ a tout payé, et qui est encore vivant aujourd'hui, et qui intercède pour nous, et qui est notre avocat, notre expiation devant le Père. Si on retourne encore dans Romains, on a parlé de toute l'accusation. Mais qu'est-ce qui parle de l'amour de Dieu? J'ai la bouche un peu sèche. Qui pourrait lire pour moi Romains 8, 35 à 39, s'il vous plaît? Romains 8, 35, 39. À voix forte.
Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? La détresse le peut-elle? Ou bien l'angoisse? Ou encore la persécution? La faim? Les privations? Le danger? La mort? Comme le déclare l'Écriture, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le long du jour. On nous traite comme des moutons qu'on mène à la boucherie. Mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés.
39?
Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur.
J'espère que ce passage-là répond à tous les questionnements qu'on pourrait avoir. Est-ce qu'on peut perdre notre salut? Rien ne peut nous séparer. Rien. Rien. Aucune situation, aucune force. Aucune. Pour celui qui est en Christ, aucune. Ah, merci mon frère, ah, t'es gentil. Merci beaucoup.
Et ça vient juste à la suite. Dieu fait concourir toutes choses
à ceux qui aiment Dieu. Oui. Mais il n'y a rien. Donc j'ai une question à vous poser. S'il n'y a rien, il n'y a nada, okay, qui peut être entre moi et Christ, qui est enfant de Dieu, il n'y a pas une situation dans votre vie qui est arrivée que vous sentez que l'amour de Dieu était écarté de vous? Une maladie? Un décès, un divorce, une séparation. Il y a des choses que des fois qu'on pense que où est Dieu?
Vous dites, mais en tant qu'enfant de Dieu, moi quand j'ai accepté Christ, j'ai l'assurance que Dieu m'aime. Mais quand je suis malheureuse, que j'ai un problème, ben, je ne mets pas sur le dos de Dieu.
Oui, très bien.
C'est la
situation.
C'est mon lot.
Mais des fois, c'est difficile à vivre.
Ah ben oui, mais je ne le mets pas sur le dos de Dieu.
Il y a un passage que j'ai lu il y a quelques années qui m'a troublé. Un des passages dans la Bible qui n'a pas de bonne fin. Un des chapitres qui n'a pas de fin wow, qui n'a pas de fin positif. OK? C'est Psaume 88 qui est difficile. On ne lira pas aujourd'hui. OK? Si vous allez dans un groupe de quartier, okay, on l'a examiné ensemble. Mais c'est un des psaumes depuis plusieurs années. Je fais, waouh, c'est difficile ce psaume-là. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de fin positif. C'est le seul psaume que c'est totalement négatif.
Oui, mais il n'y avait pas Christ à cette époque.
Non, il y avait une espérance que Dieu allait revenir.
Ah, oh, l'espérance, là.
Oui. Mais il y a un passage, il y a un petit verset dans le psaume 88 qui donne, qui met en contexte tout le reste du psaume. Le premier verset. Dieu de mon salut. Il répand son cœur, ça va pas bien. Et on peut voir le reste du passage. Lisez chez vous là, psaume 88, psaume 89, deux chapitres extrêmement dur à lire. Ceux qui pensent que la Bible parle pas de souffrance, lisez ce passage-là. Aïe, 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 aïe. OK? Mais Dieu de son salut amène le contexte. L'Éternel était son rocher. Il répond son cœur pareil parce que ses sentiments sont pas là. Mais il sait très bien à qui il parle. C'est très, très, très bien à qui parle.
C'est Ésaïe 59:1-2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, et son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face. Dieu nous aime toujours et est toujours prêt à. Mais c'est la seule chose qui peut nous séparer d'une relation avec Dieu, c'est notre péché. Parce que essentiellement, Dieu nous aime. Dieu nous aime et il nous veut en communion.
Et même, je pourrais même ajouter qu'il court après nous. Il vient nous chercher. Il nous cherche la première fois, puis il nous revient chaque fois à cause qu'il a mis notre, son Saint-Esprit en nous. On peut l'attrister, on ne sera jamais séparés. On peut faire à sourde oreille, on ne sera jamais séparés. Jamais séparés. On va vivre les conséquences de nos péchés. Il va nous corriger. On n'aime pas ça là. Moi le premier, mes enfants n'aiment pas quand je les corrige. Ok? Mais il sait que je les aime, mais ils n'aiment pas ça quand je les corrige. Ok? Mais je corrige parce que je les aime. Dieu fait encore des milliards de fois mieux que moi auprès de nous. Il nous corrige avec amour. Et son Saint-Esprit nous parle, nous rappelle sa parole. Neil, le livre que tu utilises dans ce cours, dit que de différentes situations où des animaux peuvent vivre cette séparation. Mais nous pouvons également vivre ces moments de divorce, des familles séparées temporairement par le travail, des guerres, des maladies, des circonstances déplorables. La douleur. Est-ce que Paul a vécu ça aussi? Il y a un texte que j'aime beaucoup dans Paul de Corinthiens 11, 29. Il dit, j'ai reçu des Juifs cinq fois. J'ai reçu des Juifs 5 fois 40 coups, moins 1. Wow. J'ai été battu de verge 3 fois. J'ai été lapidé 1 fois. J'ai fait naufrage 3 fois. J'ai passé un jour et une nuit dans le profond de la mer. En voyage souvent, en danger sur les rivières, en danger sur des voleurs, en danger de la part de ma nation, en danger de la part des païens, en danger dans les villes, en danger dans le désert, en danger sur la mer, en danger parmi les faux frères, dans le travail et la peine, dans les veilles souvent, dans la faim, dans la soif, dans le jeûne souvent, dans le froid et la nudité. C'est long la liste, hein? Outre les choses du dehors, je suis assailli tous les jours par les inquiétudes que me donnent toutes les églises, qui est faible, que je ne sois faible aussi, qui est scandalisé, que je ne brûle aussi. C'est dur, hein? Il écrit ça aux Corinthiens. Juste pour montrer qu'il souffre dans son ministère pour Christ. Des fois, on peut penser que Christ n'est pas là parce que les choses humainement parlant, ne sont pas glorieuses, ne paraissent pas bien. Let's go. Quelle attitude qu'il faut prendre? Un peu plus haut, Paul dit dans 2 Corinthiens 4, l'attitude qu'il faut prendre. Et ça, si vous, quand vous êtes opprimé, quand ça ne va pas bien, rappelez-vous de cela. Quand les situations sont mauvaises, là, je vous donne ça comme texte. C'est mon texte que je regarde le plus souvent quand ça ne va pas bien, que je ne peux pas expliquer. Nous sommes pressés de toute manière. Là, il parle du contexte là, de l'Évangile, okay, dans son ministère, pour Dieu. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés. Mais non désespéré. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, est synonyme pour dépression profonde, majeure, et même plus. C'est être à terre, c'est plus avoir d'énergie, c'est pouvoir rien faire. Mais non perdu. Un texte nous rappelle. Et si on continuerait le texte, ça dit, mais nous portons le trésor dans les vases de terre. La parole de Dieu, les Écritures, les Saintes Écritures. Dans certains pays, je vais vous dire une histoire, ok? Rapidement, là. J'ai vu une histoire d'une jeune fille dans un pays d'Asie. C'est arrivé il y a 2 ans. Quelqu'un, un missionnaire, est venu lui parler de Jésus. Après quelques semaines de combat intérieur, elle décide de donner sa vie à Dieu. C'est une jeune, elle n'avait même pas 20 ans. Elle voulait se faire baptiser rapidement. Le missionnaire dit pourquoi? Parce que je ne pense pas que je vais faire une semaine vivante. Mais je suis prêt à vivre pour Jésus. Elle s'est fait baptiser. La journée qui s'est fait baptiser, elle est allée dire ça à ses parents. En sachant très bien le risque. Parce que ses parents l'avaient prise à lire la Bible. Il l'avait mis dehors. Il avait averti, si tu te vois encore lire la Bible ou bien parler de Jésus, on va te battre. Donc, en revenant le dimanche à chez elle, elle dit, ses parents ont demandé où qu'elle était. Elle était à l'église. Pourquoi je me suis fait baptiser? Parce que je crois en Jésus. Ils l'ont emmené au milieu de la rue. Ils l'ont battu et ils l'ont brûlé. Vif. En 2017. Maintenant, au Québec, au Canada, on n'a pas cette pression, il y a un mot que j'ai oublié, cette persécution. Mais on a d'autres formes de persécution. Par grâce de Dieu, là, on vit dans le luxe. On vit bien. C'est une grâce de Dieu, temporairement, selon moi, mais c'est une grâce de Dieu. Au Maroc, un gars que j'ai rencontré ici, qui me disait que venir à Christ, ça veut dire perdre tout son héritage, son travail et son logis. En moins d'une semaine, on perd ces 3 choses-là. Pour les Marocains qui viennent à Christ. On ne vit pas ça ici. Ce qu'on vit ici, c'est la pression sociale. La pression des pères. C'est une différente forme de persécution. Certains vont dire que c'est beaucoup moins. Moi, je veux dire, on a une grâce maintenant, mais on a aussi nos combats aussi. Donc, comme que vous le prendrez mal ou bien, on a tout un travail à faire. Se rappeler de qui on est. Parce que si on se rappelle qu'on est libre de toute accusation, et si on se rappelle que Dieu, que l'amour de Dieu, il n'y a rien qui peut nous empêcher, il n'y a rien qui nous est impossible. Êtes-vous d'accord avec ça? Vous n'êtes pas d'accord? Ou bien l'histoire vous a juste choqué? C'est une vraie histoire. C'est 2 vraies histoires. OK? Pas de surpris. Hein.
Le Seigneur Jésus a dit,
ils vont vous haïr. D'autant plus. Paul vivait des terribles choses, mais il ne se laisse pas submerger par ces événements. Nous ne devons pas, nous aussi, pas se laisser submerger dans nos conflits parentaux, familiaux, dans nos pressions sociales, avec nos enfants, notre époux, avec notre voisin au travail, pas avoir crainte de Christ, pas avoir peur de Christ, il n'y a rien qui va nous séparer de son amour. Rien.
La Sommeur dit, j'ai l'absolue certitude. Comme si je suis persuadée que dans notre version, là, c'est comme si ce n'est pas assez, il faut appuyer encore plus.
Exactement. C'est ce que Paul voulait faire. Il voulait appuyer le fait. C'est pour ça qu'il nomme des listes, qu'il nomme là. Il voulait dire à tout le monde que non, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien pour l'enfant de Dieu qui croit que Jésus est Christ, est Dieu, est le Fils de Dieu. Comment Paul peut-il être assuré que les choses à venir ne pourraient le séparer de l'amour de Dieu?
Ma grâce te suffit.
Ma grâce te suffit. Les insécurités temporaires de ce monde ne peuvent interférer. L'amour de Dieu était toujours en action dans la vie de Paul et dans la vie de ceux que Paul voulait amener à Christ. Nous devons avoir la même attitude que les chrétiens de Actes 5, 41, que je ne peux pas lire, ok? Mais vous lirez, ça, Actes 5, 41, quand les chrétiens ont souffert, comment ils ont réagi. C'est une grâce de souffrir pour Christ. 1 Pierre 3 aussi le mentionne aussi. C'est une grâce. 1 Pierre. Si vous voulez vous lire un épître qui parle de comment agir dans la souffrance, dans différentes situations, 1 Pierre. Pas souffrir pour nos péchés, mais souffrir à cause de Christ. C'est un privilège. Quel est le lien, faites-vous, entre la hauteur et la largeur dans Paul? Rien dans la création ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Marie, que nous ne pourrons, que nous comprenons pas toute la grandeur et l'ampleur de l'amour de Dieu, elle reste solide et inébranlable. Nous devons nous rappeler que nous pouvons faire face aux tribulations avec la certitude que notre relation éternelle est avec celui qui nous aime. Que répondre à quelqu'un qui dirait « Je vois qu'aucune de ces choses dont Paul nous parle ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu. Mais ce sont des choses extérieures, indépendantes de moi. Qu'en est-il de moi-même et de mes péchés, et de ma conscience, de ma volonté? Est-ce qu'elle peut m'éloigner de Dieu? » Ça, c'est une vraie question.
C'est moi-même qui peux m'éloigner de Dieu.
Notre Père Céleste est le Seigneur de toute éternité. Il a tout contrôle sur l'univers. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur. C'est un rappel pour nous tous. Ma relation avec Dieu n'est pas basée sur le fait que je puisse m'accrocher à lui. Je n'ai certainement pas cette puissance. En effet, c'est Dieu qui nous tient et il a la puissance de nous garder en sécurité dans sa main. Même nos pensées qui sont pécheresses, même nos volontés qui sont tachées par la tache d'Adam, ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'il faut méditer la parole jour et nuit, de se rappeler les promesses de Dieu. Malgré qu'est-ce qui rumine dans nos pensées, nos faiblesses. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire « je connais déjà toute la parole de Dieu » parce qu'on ne la met pas encore en pratique. Il faut se le rappeler des promesses, des vérités de Dieu. J'espère que je vous ai convaincu que les enfants de Dieu sont libres de toute accusation et qu'il n'y a rien qui existe sur ce bas monde, dans les pensées comme dans les actions, comme les personnes qui peuvent vous séparer de l'amour de Dieu, comme enfant de Dieu. Est-ce que, William, tu pourrais prier à voix haute, fort, s'il te plaît, pour finir ?